Merci d'être avec nous pour un nouveau point sur l'info. Radio France Internationale en direct de Paris, où il est minuit.
Mathis Limano.
Et les titres qui font l'actualité, c'est d'abord cette attaque en Autriche, attaque au couteau en plein après-midi à Villach, ville du sud du pays. Un adolescent est mort dans l'attaque. Le suspect est un Syrien de 23 ans, demandeur d'asile. Il a été arrêté immédiatement après les faits. Ses motivations restent pour l'heure inconnues. Également à la une, ce sixième échange d'otages et de prisonniers depuis le début de la trêve entre Israël et le Hamas. Ce samedi, 3 captifs retenus à Gaza ont pu rentrer en Israël, tandis que 369 prisonniers palestiniens ont pu quitter leur prison, tout faire pour ne pas laisser s'effondrer la trêve, le cri lancé par les familles d'otages. On est à Jérusalem, sur la place des otages, justement, dans ce journal. L'avenir de l'Ukraine toujours incertain, la présidente de l'Union européenne propose une nouvelle mesure pour soutenir le pays militairement. L'Autriche sous le choc donc après une attaque au couteau à Villach dans le sud du pays. Un homme de 23 ans a attaqué des passants en plein après-midi ce samedi, indique la police autrichienne. Un adolescent de 14 ans est décédé, 4 personnes blessées dont 2 grièvement. Le suspect arrêté est un Syrien demandeur d'asile. Il n'était pas connu des services de police. Ses motivations ne sont pour l'heure pas encore connues, Isorias.
Peu avant 16h ce samedi, un homme a attaqué au hasard plusieurs passants dans le centre-ville de Villach, petite ville du sud de l'Autriche, dans la région de Carinthie. Selon la police, un garçon de 14 ans a été tué et 4 hommes ont été blessés, dont 2 grièvement. Peu de temps après les faits, la police a arrêté le suspect. Il s'agit d'un ressortissant syrien de 23 ans, en situation régulière, selon la police. Toujours selon la police, un témoin de l'attaque sur place a permis d'éviter qu'il y ait d'autres victimes. Un livreur de repas, âgé de 42 ans, aurait en effet assisté à l'attaque puis heurté l'attaquant avec son véhicule, permettant ainsi probablement d'éviter d'autres actes. La police ne sait pas à cette heure si le suspect arrêté aurait pu avoir d'éventuels complices. Quant au motif de cette attaque, il reste lui aussi à éclaircir. Isorias, Vienne, RFI.
Le gouverneur de la province de Carinthie a exprimé ses condoléances à la famille de la victime, tout en condamnant une atrocité scandaleuse devant être sévèrement punie. Une attaque prévisible, dénonce un député du Parti de la Liberté, parti d'extrême droite, en raison, je cite, de la politique d'asile désastreuse de l'Autriche. Cette attaque au couteau intervient 2 jours après un attentat à la voiture Bélier en Allemagne. Jeudi matin à Munich, un Afghan demandeur d'asile a foncé avec un véhicule sur une manifestation syndicale. Une mère et sa fille présentes au rassemblement ont succombé à leur blessure hier samedi. Le suspect, arrêté juste après les faits, dit avoir agi par motivation islamiste, selon la police. Le Hamas a, comme prévu, libéré ce samedi matin 3 nouveaux otages à Gaza. 3 hommes, tous binationaux, qui avaient été enlevés dans un kibboutz. Ils ont recouvré la liberté après plus de 16 mois de captivité. Leur remise en liberté découle de l'accord de trêve conclu entre Israël et le Hamas. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, il y a un mois, 19 otages israéliens ou binationaux ont été libérés. Ce samedi matin, à Tel Aviv, les proches des otages étaient de nouveau au rendez-vous pour célébrer ces libérations. Il y avait beaucoup d'émotions et aussi, encore, de l'angoisse sur la fameuse place des otages. Dans la foule, Marcia, au micro de notre envoyé spécial, Abla Junaidi.
This week was a depression, anguish, desperate week.
Cette semaine a été très déprimante, angoissante, désespérante. Nous avions tous très très peur. On pensait que nos otages étaient au minimum alimentés, mais quand on a vu la semaine dernière qu'ils étaient quasi mourants, on a compris qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Tout le monde a paniqué. Moi, j'avais la migraine et je me disais, « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer pour nous si les autres ne sont pas sauvés ce samedi ?» Nous n'avons plus le temps.
I was like, oh my God, what will happen with us if this won't solve this Saturday? We don't have time anymore.
Et en échange de ces nouvelles libérations, Israël a relâché 369 prisonniers palestiniens, dont une grande partie a été acheminée jusqu'à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. C'est le 6e échange de ce type, alors que la trêve dans l'enclave demeure très fragile. Des libérations d'otages rendues possibles grâce à la position ferme du président Trump, a remercié Benjamin Netanyahou. Par ailleurs, Marco Rubio est arrivé en Israël. Première étape d'une tournée au Moyen-Orient pour le patron patron de la diplomatie américaine, avec au programme des entretiens prévus avec le premier ministre israélien, avant de se rendre en Arabie Saoudite où il rencontrera des responsables russes et ukrainiens. Et alors que Volodymyr Zelensky a annoncé qu'il avait refusé un accord avec Donald Trump, accord sur les ressources en minerais de son pays, faute de garanties suffisantes pour la sécurité, dès vendredi, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé une nouvelle mesure pour booster les dépenses militaires du continent, notamment pour soutenir l'Ukraine. Justine Fontaine, les investissements dans la défense ne seraient ainsi pas soumis aux règles budgétaires de l'Union européenne.
Si les États membres s'endettent pour acheter des armes, financer leur armée ou fournir une aide militaire à l'Ukraine, ils pourraient activer une clause spéciale pour éviter que ces investissements soient pris en compte dans le calcul de leur déficit public, ce qui leur permettrait donc de dépenser plus, sans dépasser officiellement le fameux seuil des 3% de déficit fixé par l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, l'a justifié ainsi à Munich ce vendredi.
Nous avons besoin d'augmenter les dépenses de l'Europe en matière de défense. Actuellement, c'est 2% du PIB des 27, mais une nouvelle hausse considérable est nécessaire, car passer de 2% du PIB à plus de 3% signifie investir des centaines de milliards d'euros supplémentaires chaque année.
Alors que les États-Unis de Donald Trump pourraient réduire considérablement leur soutien financier et militaire à l'Ukraine, l'Italie a rapidement salué la proposition. Le président français Emmanuel Macron a estimé lui aussi qu'il faut réformer les règles budgétaires européennes. Paris et Rome font partie des plus endettés du continent et souhaitent depuis longtemps, avec Madrid notamment, un assouplissement de ces règles. Plus étonnant, en revanche, alors que l'Allemagne défend habituellement la rigueur budgétaire, le chancelier Olaf Scholz s'est dit tout à l'heure certain, à une semaine des élections fédérales dans son pays, que le futur gouvernement sera favorable à une exception budgétaire pour les dépenses militaires.
Le sujet sera au menu des discussions de la prochaine réunion des ministres des Finances de l'Union européenne, lundi et mardi. J'ai fait tout ce que je devais faire à l'époque, assure François Bayrou. Le premier ministre français a longuement échangé hier samedi avec des victimes dans l'affaire Notre-Dame de Bétarame, cet établissement scolaire proche de Pau dans le sud-ouest de la France où une centaine d'anciens élèves disent avoir subi des violences sexuelles au cours des années 90. François Bayrou était alors ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, certains députés l'accusent d'avoir menti quant à sa connaissance des faits. Un nombre colossal de victimes reste tapis dans l'ombre. Sur le porte-parole des plaignants, le Premier ministre a lui promis des magistrats supplémentaires pour aller au bout de l'enquête. Le pape François ne dirigera pas la prière de l'Angélus ce dimanche. Le souverain pontife, toujours hospitalisé pour une bronchite entraînant des difficultés respiratoires. L'état de santé du pape montre des signes d'amélioration, mais il a encore besoin de se reposer, a déclaré le Vatican. Testé positif l'année dernière à un test antidopage. Le numéro 1 mondial du tennis, Yannick Sinner, connaît enfin sa sanction. L'Agence mondiale antidopage a rendu son verdict ce samedi. 3 mois de suspension. L'Italien ne s'en sort pas si mal, Olivier Pron.
3 mois, effectivement, au lieu d'un à 2 ans initialement demandé. La sanction aurait pu être bien plus lourde et mettre la suite de sa carrière en grave danger. Testé positif à un anabolisant en mars 2024, Yannick Sinner s'en était sorti jusqu'alors, plaidant la contamination accidentelle. En l'occurrence, une pommade sur la main d'un de ses kinésithérapeutes qui aurait pénétré dans l'organisme de l'Italien via un massage. L'AMA concède cette inoculation accidentelle, ce dopage à l'insu de son plein gré. En somme, elle confirme que cela n'a en aucune manière améliorer les performances du numéro 1 mondial, mais l'agence mondiale estime aussi qu'un sportif est responsable de la négligence de son entourage et donc elle inflige une suspension façon côte mal taillée, qui calmera peut-être la colère de certains joueurs qui estimaient que Sinner avait jusqu'ici bénéficié d'un traitement de faveur. Le voilà donc au repos forcé jusqu'au 4 mai, lui qui écrase le circuit mondial depuis quelques mois, vainqueur des 2 derniers tournois du Grand Chelem aux États-Unis et en Australie, 6 défaites seulement depuis janvier 2024 pour 81 victoire. L'Italien de 23 ans manquera les 4 prochains Masters 1000, catégorie juste en dessous des tournois du Grand Chelem, mais sera de retour pour Roland-Garros. Fin
Olivier Pron, service sport de RFI. Le sport, c'est aussi le foot. Le PSG s'impose 1-0 à Toulouse pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Avant cela, les Monégasques ont étrié les Nantais, défait sur le score de 7-1. Même tarif, ou presque, pour les Stéphanois qui se sont inclinés à Marseille, 5-1. RFI, il est presque 10:30, à Paris, 1 heure de moins, en temps universel. Tout de suite, c'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Merci d'être à l'écoute de RFI.